On découvre ensemble le patrimoine de la Loire-Atlantique et de la Vendée du lundi au vendredi de midi à midi et demi. Nous allons faire un tour au château des Ducs de Bretagne avec Xavier Simon pour vous parler de cette exposition de photos qui a lieu actuellement dans ce château des Ducs qui s'appelle Cimarronne.
Christelle Gualdet, bonjour.
Bonjour.
Merci Christelle d'être avec nous. Vous êtes la directrice scientifique du Château des Ducs de Bretagne. Ça consiste en quoi, votre métier de directrice scientifique au Château des Ducs de Bretagne? S'il vous plaît, ce sera ma première question.
Oui, alors c'est une question qu'on me pose souvent.
Ben, je me doute un petit peu. Vous savez que vous êtes la première directrice scientifique que je rencontre et ça fait à peu près plus de 30 ans que je fais de la radio.
Alors, je vais essayer de vous donner une définition relativement simple. En fait, un musée d'histoire, c'est une écriture. L'histoire, c'est une écriture. Oui. Et bien, mon travail consiste à donner les grandes orientations de cette écriture. D'abord à composer, à écrire, à concevoir les expositions temporaires, mais aussi le musée permanent, et à donner les grandes orientations scientifiques, c'est-à-dire historiques dans notre domaine, de notre approche des périodes que nous couvrons. Alors, le musée d'histoire de Nantes raconte l'histoire du château des Ducs de Bretagne, de la Bretagne, de la ville de Nantes et du territoire nantais, du Moyen-Âge à nos jours. Et c'est vrai que cette histoire, on peut l'aborder de mille façons. Donc, nous avons des partis pris forts, nous nous inscrivons dans des courants historiques, notamment dans le domaine de l'histoire locale, mais aussi dans celui de l'histoire globale et dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée décoloniale. Donc, c'est définir les grands axes d'approche de cette histoire qu'est mon travail.
D'accord, voilà le rôle donc d'une directrice scientifique, en l'occurrence vous, Christelle Gualdet, du côté du Château des Ducs de Bretagne. Alors depuis quelques jours, on peut voir une exposition qui s'appelle Cimarron. Va falloir me donner des petites explications. Elle est à voir au Château des Ducs de Bretagne. Elle est à voir plus précisément au Musée d'Histoire de Nantes. Avant de nous parler de cette exposition, car ça fait longtemps maintenant que je suis arrivé à Nantes, je vous en parlais tout à l'heure hors micro, je n'ai jamais visité le Musée d'Histoire de Nantes ni le Château des Ducs de Bretagne. Je sais, c'est pas bien quand on fait le métier que je fais, mais voilà, c'est pas facile d'aller un petit peu partout. Comment ça s'articule, ce Château des Ducs de Bretagne et ce Musée d'Histoire de Nantes, s'il vous plaît, Christelle Gualdet?
Vous avez raison, le Château des Ducs de Bretagne, avant tout, c'est un site, un monument historique. Et à l'intérieur de ce monument, il y a plusieurs propositions. Et notamment des propositions qui sont des expositions temporaires, mais il y a aussi un musée permanent. Donc c'est vrai que c'est pas simple d'appréhender de l'extérieur cet endroit, d'autant que beaucoup de Nantais le pratiquent en s'y promenant, en faisant le tour des remparts,
oui,
sans jamais entrer finalement dans le lieu lui-même.
D'accord.
Donc je pense que c'est bien de justement poser cette question, parce qu'il y a beaucoup à découvrir à l'intérieur de ce lieu. Il y a notamment un très grand musée d'histoire permanent qui compte 32 salles et qui, comme je le disais à l'instant, vous permet en fait de voyager dans l'histoire du Moyen-Âge à nos jours.
D'accord, ça c'est ce que l'on peut voir d'une manière permanente lorsqu'on décide par exemple de visiter donc le château des Ducs de Bretagne.
Absolument,
ouais.
Et ça vous permet en même temps de rentrer dans le monument, dans les bâtiments que sont le Grand Logis et le Grand Gouvernement. Donc vous visitez aussi le monument en même temps que vous parcourez cette histoire. Et les deux s'imbriquent, puisqu'évidemment le château des Ducs de Bretagne a été achevé par Anne de Bretagne, un personnage que les Nantais connaissent bien et que tous les Français connaissent bien, puisqu'elle a été deux fois reine de France. Donc en fait, les deux parcours s'imbriquent parfaitement. Et puis il y a en même temps sur le site un grand bâtiment qu'on voit tout de suite quand on entre dans la cour, qui est le bâtiment du harnachement.
Voilà, c'est celui qu'on appelle aussi le bâtiment des expositions.
Absolument.
D'accord.
C'est ce bâtiment.
Parce que comme je ne connais pas le lieu, j'ai essayé de comprendre et j'ai vu qu'il y avait ce bâtiment des expositions. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il doit y avoir le château et ce fameux bâtiment des expositions.
Alors donc ce bâtiment là, le bâtiment du harnachement, accueille les expositions temporaires. Et on peut ne visiter que les expositions temporaires si on veut. Simplement, le billet donne accès à l'ensemble. Donc c'est toujours intéressant de se dire que si on a du temps, eh bien on peut visiter et le musée permanent et les expositions temporaires qui se répondent en fait toujours autour justement de cette fameuse direction scientifique sur laquelle vous m'interrogez.
Alors Christelle Gualdet, directrice scientifique du Château des Ducs de Bretagne, ça prend combien de temps pour visiter correctement, entre guillemets, le Château des Ducs de Bretagne et aller jeter également un coup d'œil et passer un petit peu de temps lors des expositions temporaires? On va en parler d'une qui a démarré il y a quelques jours, dans quelques instants.
En fait, je vous dirais, très honnêtement, ça prend le temps qu'on veut. D'abord parce que avec un pass à 10 euros, vous pouvez revenir toute l'année, autant que vous voulez, et dans les expositions, et dans le musée permanent. Donc si vous avez...
Pour 10 euros.
Absolument. Pendant une année.
Pendant une année, on peut venir au château des Ducs de Bretagne.
Et autant de fois qu'on veut.
Et au musée, au musée d'histoire également.
Absolument. Pendant une année, votre pass vous permet de voir autant de choses que vous voulez au musée d'histoire de Nantes en termes d'exposition temporaire ou de musée permanent. Donc, vous pouvez ne venir que pour quelques minutes si vous voulez voir un objet, si vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, et puis revenir autant que vous le voudrez durant l'année. Alors, si vous vouliez faire la visite complète en une seule fois, là, évidemment, il va vous falloir, on va dire, une bonne paire d'heures.
D'accord.
Mais en plus, pour peu que vous tombiez fou amoureux d'un sujet ou d'un thème, en ce moment, on a une grande exposition sur le rock à Nantes, par exemple, et bien là, vous pouvez aussi passer pas mal de temps. Donc, c'est le temps qu'on veut, je dirais.
Voilà. Et en plus de ça, vous savez, vous avez la possibilité d'avoir un pass annuel qui coûte seulement 10 euros et qui vous permet de revenir quand vous le souhaitez pour revoir justement l'exposition que vous avez pu voir en entier, par exemple, au château des Ducs de Bretagne. On va vous parler d'exposition de photos, donc Cimarron, qui a lieu actuellement là-bas.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je cours et j'ai peur, est-ce mon tour ou bien
Indila sur France Bleu Loire Océan. On découvre ensemble le patrimoine de la Loire Atlantique et de la Vendée. Nous sommes au château des Ducs de Bretagne ce midi en compagnie de Xavier Simon pour nous parler entre autres de l'exposition de photos qui a lieu actuellement qui s'appelle Cimarronne.
Je suis en compagnie de Christelle Gualdé, directrice scientifique du château des Ducs de Bretagne, qui nous a fait, vous nous avez donné envie d'aller au château des Ducs de Bretagne, ainsi qu'au musée d'histoire de Nantes. On vient de découvrir également, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, qu'avec un pass à 10 euros, on peut y aller autant de fois qu'on veut et découvrir plein de choses pendant toute une année. Alors, depuis quelques jours, vous proposez une nouvelle exposition, donc temporaire, puisque j'ai compris qu'il y avait des expositions permanentes maintenant. Vous êtes très pédagogue, hein, Christelle, je vous félicite. Vous proposez une nouvelle exposition temporaire qui s'intitule Cimarron et qui est à voir jusqu'au dimanche 14 avril prochain. Alors moi, ce que je sais de cette exposition, c'est les nombreuses photos que j'ai vues sur le compte Twitter, hein, et je vous avais vu en photo parce que c'est vous qui avez présenté, voilà, je savais à qui j'allais recevoir. Et la seule chose que je sais, c'est que on peut découvrir 70 photographies signées de Charles Frégé. C'est tout ce que je sais, et la suite c'est pour vous, Christelle Gualdé.
Je vais avoir beaucoup de choses à vous dire.
Exactement, mais c'est pour ça que vous invitez.
Alors, en effet, nous avons la chance de présenter en avant-première, parce que c'est la première fois que cette série est présentée, 70 photos de la série Cimarron de Charles Frégé. Et donc Charles Frégé, pour les gens qui connaissent un petit peu le monde de la photographie, c'est un photographe qui est aujourd'hui très connu et reconnu.
Son donc travail, Cimarron, vous avez bien dit.
J'ai dit Cimarron, en effet, parce que je le dis plutôt à l'espagnol, je vais vous expliquer.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on peut aussi dire Cimarron. Et donc Charles Frégé est un artiste aujourd'hui qui commence à avoir une très belle notoriété. Une très grande exposition rétrospective en ce moment est présentée dans la galerie Armani de Milan. Et puis, il y a aussi une très grande exposition au Musée des Confluences à Lyon, de sa série Yokai no Shima. Donc en fait, ce que nous présentons, ce sont des photographies très spectaculaires. Certaines sont immenses. Les gens qui rentrent dans la salle ont le souffle un peu coupé par ce qu'ils voient parce que c'est une explosion, on va dire, de couleurs, de motifs. Et puis parce que au départ, nous, en tant que visiteurs, on n'y comprend rien, d'une certaine manière, à ce qui se passe et à ce qu'on regarde. Cette série Cimarron, elle est consacrée à la représentation des esclaves fugitifs dans les mascarades des afro-descendants du continent américain. Alors, dit comme ça, ça a l'air très compliqué, mais je vais rentrer dans le détail.
Non, mais c'est pas compliqué, j'ai rien compris.
Voilà. Alors, Cimarron, en fait, c'est un mot espagnol qui était utilisé dans les colonies américaines, l'Amérique latine, comme on dit couramment. Et ça veut dire le bétail qui s'enfuit. Le bétail qui retourne à l'état sauvage. Et c'est le nom que les Espagnols ont donné aux esclaves africains qui quittaient la plantation. Et nous le retrouvons en français dans l'expression de nos archives du XVIIIe siècle où on trouve les nègres marrons ou les négresses marronnes dans les archives. Et c'est ainsi en fait que le terme marronnage qui vraiment décrit cette fuite de la plantation est apparu dans les dictionnaires du XVIIIe siècle. Cette histoire, c'est donc une histoire évidemment qui lie Nantes directement au travail de Charles Frégé, puisque vous le savez, Nantes a été la première ville négrière de France au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Je crois que tous les Nantais le savent aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce passé a laissé des traces, et notamment dans des traditions et des coutumes du continent américain. Et Charles Frégé, qui s'intéresse aux costumes, qui s'intéresse à l'identité des communautés, qui s'intéresse aux pratiques de certaines communautés aussi, qui pour nous n'existent pas, enfin nous les ignorons complètement, eh bien a fait un voyage à travers 14 pays à la recherche dans ces mascarades organisées par les descendants de ces esclaves, c'est pour ça qu'on parle de mascarades afro-descendantes, la recherche de ces traces. Quelles traces le passé esclavagiste a laissé dans ces mascarades aujourd'hui? Et il en a trouvé beaucoup, et l'image du Cimarron, c'est-à-dire en fait de la résistance à l'esclavage, eh bien elles sont encore très vivantes dans ces mascarades et dans ces carnavals. Donc ce sont des photographies qui sont très fortes, qui dans le bâtiment du harnachement sont très colorées et montrent des cultures extrêmement vivantes qui ne sont pas que des cultures afrodescendantes. C'est bien plus complexe que ça. Tout simplement parce que les esclaves marrons, quand ils quittaient la plantation, se réfugiaient souvent aussi auprès des populations amérindiennes. Et oui, étaient accueillis dans ces populations et donc sont nés de ces contacts des cultures extrêmement originales. On parle de myriades de cultures sur le continent américain parce que, en fait, des populations qui ne s'étaient jamais rencontrées l'ont fait et ont croisé leur langue, leurs pratiques, leurs pensées, leurs cultures, leurs rêves.
Oui, j'ai aperçu quelques photos, effectivement, ça m'a fait penser à des costumes d'Amérindiens. On les retrouve sur certains clichés proposés lors de cette exposition. Donc c'est le croisement de ces deux cultures qu'on retrouve sur les photos.
Enfin. Absolument, et même on peut dire de ces trois cultures, puisque la tradition du carnaval, ce sont les Européens qui l'ont emmenée. Dès le XVIe siècle, il y a des carnavals sur le continent américain. Et les esclaves, à ce moment-là, parce que beaucoup de carnavals se tiennent la nuit, les esclaves portent les flambeaux qui permettent aux carnavaliers de danser et de jouer la mascarade. Eh bien, ces flambeaux existent encore aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, puisqu'il a été jusqu'en Louisiane, et nous présentons certaines de ces photographies, y compris dans le musée permanent. Donc c'est là qu'il y a une subtilité.
D'accord.
C'est qu'il y a l'exposition temporaire
avec quand même des clichés qui sont exposés
dans le musée permanent.
Permanent. Donc 70 photos, ça prend de la place, surtout si vous nous dites, Christelle Gualdet, qu'elles sont immenses. Alors il y a déjà cette photo qui est celle de l'affiche de l'exposition qui elle est magnifique cette photo. C'est vrai que ça interpelle, c'est placardé un petit peu partout dans l'agglomération nantaise. Voilà un petit aperçu de ce qu'on peut découvrir du travail de ce photographe.
Absolument. Et imaginez-vous qu'en fait, tout est aussi spectaculaire et tout est aussi déroutant pour nous et troublant de vivacité. Et le fait que ce soit encore très présent, très vivant, forcément, on ne peut que nous toucher.
Alors, cette exposition Cimarron, donc je la prononce à l'espagnol, puisqu'il faut le prononcer ainsi, est à voir jusqu'au dimanche 14 avril prochain, donc au Château des Ducs de Bretagne, au Musée d'Histoire de Nantes. C'est le même lieu, on l'a bien compris. C'est à voir quand? Tous les jours? Comment ça se passe? Le côté pratique maintenant?
Alors, c'est à voir tous les jours, de 10h à 18h, sauf le lundi, jour de fermeture, et le musée est gratuit tous les premiers dimanches du mois.
On découvre ensemble donc cette exposition photo Cimarron qui est à voir actuellement. Allez donc y faire un tour par exemple ce week-end avec le beau temps qu'il va faire. Ça va être agréable d'aller faire un tour le long par exemple des remparts du château des Ducs de Bretagne. Merci à vous Xavier Simon. Jam avec ce classique du rock Black Betty. Sur France Bleu Loire-Océan, on découvre ensemble jusqu'à 13h. Par exemple, cette association, les Babines de l'Espoir 44, une association qui vient en aide aux animaux des personnes les plus démunies. Nous irons faire un tour sur l'Erdre, la rivière à Nantes, avec les bateaux nantais. Et vous allez découvrir aussi une autre association qui concerne les animaux. Donc, il s'agit de l'association Urgence Maltraitance Animale de Loire-Atlantique.
Jean-Jacques Lester, on découvre ensemble.